Parenthèse, le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par Calmosine. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Parenthèse. La Parenthèse, c'est un podcast produit par Calmosine pour vous accompagner sur le chemin de la parentalité. Parce que devenir parent, c'est s'engager pour la vie dans une carrière sans formation ni diplôme, et parce que des parents apaisés font des enfants heureux, Calmosine a imaginé ce podcast comme une pause pour adoucir votre quotidien. Un rendez-vous audio pour vous aider à trouver vos propres ressources et la confiance nécessaire pour entrer dans votre rôle de parent. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et maman de deux jeunes enfants et je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode de La Parenthèse. La première année d'un enfant est spectaculaire. Il apprend, s'éveille et grandit à chaque instant, de son premier jour à sa première bougie. Comment évolue le rythme du bébé au fil des mois? Comment évolue ce cycle de sommeil à mesure qu'il grandit et gagne en autonomie? Est-ce que dormir s'apprend? Pourquoi parfois un bébé ne dort plus ou moins bien? Quelles sont les grandes étapes de cet apprentissage et comment l'accompagner? Parce que comprendre son bébé, c'est aussi mieux vivre les nuits agitées en tant que parent, on aborde dans cet épisode les clés du sommeil de l'enfant de 0 à 1 an, avec Marie, consultante spécialiste du sommeil de l'enfant, et le témoignage de Jill, maman de 4 enfants. Bonjour Jill, bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Jill, on te connaît grâce à ton compte Instagram, Jill et sa tribu, où l'on peut suivre ton quotidien de mère de famille nombreuse, un quotidien ponctué de belles échappées dans la nature, de beaux voyages. Chacun de tes posts nous met l'eau à la bouche et en même temps, on se demande comment tu fais, comment tu t'organises avec 4 enfants, 9, 7, 3 et 1 an pour la petite dernière. Et surtout, comment se passent vos nuits avec ton mari?
Écoute, à la maison, c'est pire qu'en voyage. Tu vois, souvent, les personnes me disent, mais dans le camping-car, parce que du coup, on a voyagé en camping-car quand ma petite dernière était tout bébé, quand elle avait 4 mois, on est parti au Cap Nord faire le tour de la Scandinavie pendant 2 mois. Et tout le monde me disait, mais catastrophe, quand elle pleure, tout le monde doit se réveiller, vous êtes dans un si petit espace, comment vous gérez? Étrangement, en fait, quand elle pleure, les autres ne se réveillent pas du tout. Donc, ça se passait plutôt bien. Et elle, en voyage, je pense qu'elle était bien aussi parce que nous, on était à 100% disponible pour elle. Je pense qu'elle devait le sentir. Et à la maison, c'est plutôt compliqué. Enfin, on a encore des réveils nocturnes alors qu'aujourd'hui, elle a 15 mois. Donc, je dirais comme chez tout le monde, avec des hauts et des bas, mais ça, on gère au fur et à mesure qu'elle grandit.
C'est vrai que tu me disais que tu avais un peu découvert les problèmes de sommeil en rentrant chez toi et en essayant de trouver le rythme. Comment ça s'est passé les nuits? C'était des réveils nocturnes ou des problèmes d'endormissement?
Les deux.
La totale.
C'est ça. Mais en fait, on est rentré quand elle avait 6 mois, donc je pense que c'est aussi un peu un âge charnière où ils sont plus vraiment nouveau-nés, commencent quand même à bien se développer. Et je crois que pendant toute la première année, il y a tellement d'étapes que le sommeil n'est jamais figé, sauf si on a beaucoup de chance et qu'on a un bébé qui dort beaucoup. Mais en tout cas, moi, j'ai pu remarquer les 4 fois que j'ai eu un enfant de moins d'1 an qu'il y avait des moments de régression, si on peut dire, ou des moments plus ou moins faciles. Donc, je le savais, en fait. Quand je l'ai eu, je savais qu'on allait passer par des phases trop bien et qu'il fallait en profiter, et puis d'autres qui allaient être moins bien.
Pendant un long moment, je ne sais pas si c'est terminé, si tu as réussi à passer la phase endormissement-poussette, mais ta fille ne s'endormait que dans sa poussette, bercée, et que du coup, tu craquais en disant « ça marche », et que tu as essayé aussi de la faire s'endormir dans son lit. Comment tu as géré ça?
Alors, en fait, ça a commencé quand on a commencé à voyager, donc quand elle avait 4 mois. Avant ça, c'était vraiment le nouveau-né, en fait. Donc, avant ça, elle s'endormait au sein. Elle s'endormait dans l'écharpe. Bien sûr qu'on a eu des moments plus difficiles, des tétés groupés au tout début, où elle passait toute la soirée au sein et qu'elle ne voulait pas dormir parce qu'il fallait qu'elle fasse le plein. Il y a eu des moments de colique aussi. Mais quand on est parti au Cap Nord, elle avait 4 mois. Et là, au fur et à mesure, on a pris l'habitude, le soir, de la bercer dans la poussette parce qu'elle ne s'endormait plus au sein, en fait. Mon arme fatale ne fonctionnait plus. Donc, du coup, on est passé à la poussette parce que c'est un petit peu la seule ressource qu'on avait en voyage. Et en fait, le truc, c'est que ça fonctionnait mais hyper bien. Dès qu'elle était dans la poussette, dès que l'habitude était prise, c'était devenu, je pense, un peu comme sa béquille, j'ai envie de dire, et ce qui allait l'amener, elle, vers le sommeil. Moi, ça ne m'a pas dérangée, parce que je sais très bien que ça va passer, quoi. C'est quelque chose qui correspond à un instant T, j'ai envie de dire. Et pour moi, ça, ce n'est pas une mauvaise habitude. Pour moi, c'est juste une habitude. Et quand elle ne convient plus, ben, on en crée une nouvelle. Donc, ça ne m'angoissait pas, ça ne me stressait pas. Et même, j'étais contente parce que finalement, je savais qu'en moins de 5 minutes, quand c'était l'heure de dormir, ben, elle dormirait. Finalement, c'était facile d'avoir ce côté de poussette. Mais c'est une habitude qui s'est créée pendant le voyage, en fait. Au début, on ne l'avait pas. Et puis après, ça s'est créé parce qu'elle avait donc, du coup, sa nacelle avec elle. Mmh. Et on pouvait prendre sa nacelle et la poser dans le camping-car. Donc vraiment, c'était pas trop mal. Et quand on est rentré de voyage, ben, elle avait 6 mois. Et du coup, elle avait cette habitude de s'endormir dans la poussette. Alors, on l'a gardée. En fait, on n'a pas vraiment cherché à la changer parce que ça fonctionnait pour nous, ça fonctionnait pour elle. Et moi, je me disais, la finalité, ben, c'est qu'elle dort, que nous, on dort. Et quand on est rentré à la maison, on arrivait très facilement à la prendre et à la mettre dans son lit, une fois qu'elle était bien endormie. Donc vraiment, ça m'a pas du tout stressée.
Est-ce qu'aujourd'hui, elle dort dans son lit?
Ouais.
Elle s'endort dans son lit?
Elle s'endort dans son lit vraiment comme il faut. C'est quand elle a eu 1 an que je me suis dit, bon là, quand même, maintenant, elle est assez grande pour comprendre que je ne vais pas l'abandonner, que si je lui dis que je vais revenir, ben voilà. Donc, j'ai dit, bon, maintenant, c'est le moment. Et je pense aussi que moi, j'étais prête à me dire, voilà... Elle ne va pas avoir peur, elle ne va pas être stressée que je ne revienne pas, parce que moi, je ne voulais absolument pas la laisser pleurer. Et elle, en fait, elle hurlait dès que je la posais quelque part et elle avait vraiment besoin d'être à côté de moi. Donc, je la sentais prête, je la sentais grande, je me disais, elle peut comprendre. Moi, je me sentais prête aussi et ça a été un peu compliqué quand même. On a mis finalement, c'est court, mais quand on est en plein dedans, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et on a mis 1 semaine. Donc, franchement, on aurait pu le faire avant, je me dis, avec le recul... 1 semaine, c'est rien. Mais ça a pu être compliqué à certains moments. Donc, en gros, on a dit, maintenant, il faut qu'elle dorme dans son lit. Alors, peu importe si c'est dans notre chambre ou dans dans sa chambre, ça, moi, c'est pas quelque chose qui me gêne parce qu'après, comme elle se réveille la nuit et qu'elle vient pour téter, dans tous les cas, voilà. Mais en gros, on l'endormait dans sa chambre. Et le but, c'était quand elle arrive à dormir dans son lit, à elle. Donc, on a commencé par... Enfin, moi, j'ai commencé par... la faire téter, un petit câlin, un petit des petites caresses, je vais revenir, toi tu vas faire dodo, puis on se verra tout à l'heure. Et je partais, crise, elle hurlait, moi je ne peux pas la laisser hurler, donc je retournais et j'essayais de lui expliquer, t'inquiète pas, ça va aller, je vais revenir, laissez l'heure de faire dodo, tout ça. Et il y a eu des moments compliqués, parce que du coup je ne voulais pas la laisser pleurer, donc en fait ça durait, mais... longtemps, trop longtemps. Donc j'ai craqué plusieurs fois où je dis bon, c'est bon, va dans la poussette. Et mon mari me dit mais vraiment, tu l'as mis dans la poussette, mais t'as échoué là, c'est un échec. Il me disait, mais je disais mais non, ça va aller, il faut un peu de temps. C'est normal aussi que voilà, elle a pas l'habitude qu'on la laisse dans sa chambre comme ça. Et au fur et à mesure, en 1 semaine c'était réglé. Mais quand même, il y a eu trois bonnes fois où elle s'est endormie dans la poussette. J'avais une amie au téléphone, elle me disait mais en même temps. Pourquoi chercher à la mettre dans son lit quand elle s'endort en 2 minutes dans la poussette et que tout le monde est content, quoi. Donc, voilà. Et 1 semaine, finalement, je trouve que c'est pas si compliqué que ça, quoi.
Tu disais qu'elle se réveillait encore la nuit pour téter.
Ouais, toujours.
Pour toi, c'est OK? C'est alors, quelque chose que t'acceptes ou qui te pèse parce que c'est fatigant quand même de se réveiller?
Ouais, c'est ça. Exactement. C'était complètement OK jusqu'à présent. Tu vois, un peu comme quand j'ai voulu qu'elle dorme dans sa chambre, c'était OK, en fait, jusqu'au moment où j'ai décidé que non. Et là, en fait, je commence à fatiguer. J'en ai un peu marre de me réveiller pour elle la nuit, parce que, bon, quand même, elle est grande. J'ai envie de te dire, elle n'a plus vraiment besoin de téter la nuit. Je pense que c'est plus pour se rassurer ou par habitude. Donc, j'aimerais bien, oui, qu'on passe à autre chose.
On va demander à l'experte
voilà.
Son avis.
Je ne suis pas... vraiment en train de me dire, voilà, je suis au bout de ma vie, je suis au bout du rouleau, j'arrive encore à le supporter, quoi, entre guillemets.
Sur ce sujet du sommeil, est-ce qu'il y a des questions qui restent sans réponse pour toi? Étant donné qu'on a une experte dans le studio, il faut en profiter.
Oui, alors du coup, je me suis dit, est-ce que... tu vois, moi, je me suis dit, quand Sarah avait 1 an, je me suis dit, là, elle peut comprendre. que ben, je ne suis pas loin, que je vais revenir, qu'elle ne s'inquiète pas. Est-ce que j'aurais pu le faire avant? C'est une question du coup que je me pose, même si j'aurais plus d'enfants.
Oui, bon, c'est une bonne question. Oui,
c'est vrai que...
Est-ce que tu es partante pour répondre à la question tout de suite?
Alors, il faut savoir que les bébés, ils comprennent très très vite ce qu'on veut. Et c'est toujours très important, je le dis toujours, c'est de vraiment toujours parler à son bébé pour expliquer quand on a envie de changer les choses. Après, oui. La réponse, elle est oui, elle aurait pu comprendre avant 12 mois. Mais je pense que par rapport à ce que tu dis, c'est que toi, tu étais prête à 12 mois quand ta petite fille, elle avait 12 mois. Et avant ça, tu ne l'étais pas.
Ouais.
Et je pense que c'est important que la maman, elle soit prête et que finalement, vous soyez toutes les deux prêtes à le faire. Parce que si elle te sentait justement pas certaine du changement que tu avais envie de faire, elle aurait pas voulu non plus. Donc c'est ça, et le fait que c'est pris qu'une semaine, c'est très peu. Donc ça veut dire qu'elle était prête et finalement il suffisait que toi tu le sois aussi, et que les bébés ils comprennent quand les parents ont envie de changement. À partir du moment où on prévient son enfant et que on se dit voilà maintenant là j'ai vraiment envie qu'on passe à autre chose, qu'on fasse autrement, eh bien c'est comme ça que ça se passe bien. Et c'est souvent à partir de 4-5 mois où on commence vraiment à pouvoir le faire. Avant, ils sont un peu petits quand même. Ils ont vraiment besoin de nous.
Oui, c'est encore vraiment le nouveau-né qui n'a pas vraiment de rythme aussi.
Non, ça prend du temps.
Et on le sent. On le sent même la journée. Il commence à avoir des siestes fixes vers cet âge-là aussi.
Oui, c'est vrai que le rythme, vraiment, on dit qu'un rythme se régularise pour un enfant à 6 mois.
Donc,
on a de la marge au démarrage.
Marie, donc je te présente tout de même. Donc toi, tu as changé de métier il y a 2 ans.
Oui,
pour accompagner les parents et leurs enfants dans l'apprentissage du sommeil, dans la compréhension surtout des mystères des cycles et des rythmes du sommeil de l'enfant. Tu as répondu à la question de Jill et sur ces réveils de la petite Sarah à 1 an qui veut encore téter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça t'inspire, docteur? Non, tu n'es pas docteur.
Non. Alors, ce qui m'inspire, c'est que je pense que c'est un peu le même sujet que la poussette, c'est-à-dire que elle s'est habituée à avoir ses tétés la nuit. Aujourd'hui, elle en a plus réellement besoin nutritionnellement. C'est vrai qu'avant 12 mois, on se pose toujours la question, est-ce qu'elle en a encore besoin? Est-ce qu'elle a encore besoin vraiment de manger? Ou si c'est vraiment du réconfort? Et moi, je dis toujours aux mamans, si vous avez un doute sur le fait que ce soit de la nutrition, on se pose même pas la question, on lui donne. Même si autour de soi, on dira toujours, oh, mais non, tu devrais plus lui donner. C'est vous qui savez, qui connaissez le mieux votre enfant. Et finalement, là, je pense qu'elle est plus grande maintenant, elle grandit, donc c'est du réconfort. Et à partir du moment où là, ça devient quelque chose où toi, ça ne te correspond plus, ou en tout cas, t'aimerais bien un petit peu de changement, bah là, ça vaut le coup de se dire, bon, bah voilà, on va essayer de changer les choses. Et là, c'est pareil, c'est une habitude qui s'est créée, et une habitude se défait, bien sûr. Toutes les habitudes, comme tu disais, ne sont pas mauvaises en soi. À partir du moment où ça nous convient à la maison, ce n'est pas mauvais, c'est une habitude, mais ça convient à la famille. Et là, on la change et on commence à se dire, bah voilà, comment je peux changer une habitude de tétée? Alors, la tétée, c'est quelque chose que les enfants apprécient beaucoup. Et en général, ils ont du mal à l'arrêter par eux-mêmes. Donc, c'est vrai qu'il faut mener un petit peu des actions pour lui montrer aussi que tu as envie que ça se passe autrement. Et donc, pour ça, il faut, la nuit, au lieu de lui proposer directement, justement, de manger, tu vas être avec elle, tu vas l'apaiser, tu vas faire en sorte de ne pas la laisser, évidemment, si elle a besoin de toi. Mais par contre, tu vas lui montrer qu'elle n'a plus besoin de téter. Et donc, ça peut passer par les bras, ça peut passer par les bercements, ça peut passer par rester à côté d'elle sans lui donner la tétée. Et en général, ce qui se passe, c'est quand on fait ça pendant plusieurs jours, elle se dit, bon, ok, maman, elle a vraiment envie que ça se passe autrement. Il y a des bébés qui vont prendre plus de temps que d'autres pour comprendre. Mais c'est pareil, si t'es sûr de toi, si t'as vraiment envie que ça change, en général, ça se passe bien. Et elle arrêtera de se réveiller. Parce que la tétée, tant qu'on leur propose même le biberon, ils s'arrêtent pas de se réveiller. Ils continuent.
Ouais,
ils aiment bien, en fait. Donc, elle se réveille instinctivement parce qu'elle se dit, oh, est-ce que je n'irai pas voir maman? Donc, c'est vrai que tant qu'on apprécie ce moment, on le fait. Et puis, dès qu'on voit qu'on commence à se dire, bon, là, j'aimerais bien que ça change et je sais que c'est que du réconfort, j'essaye de modifier un petit peu les habitudes.
Moi, je suis certaine que c'est du réconfort.
Oui.
J'en suis
tant mieux.
Persuadée. Et en fait, même je sais pourquoi je le fais par facilité. En fait, je le fais parce que ça va très vite. Hein. En 2 minutes, elle s'est rendormie et je dors aussi. Mais c'est vrai que même une nuit entrecoupée, ben, on ne dort pas très bien. Et moi, j'ai besoin de récupérer mes nuits. Là. Donc oui, on va s'y mettre. D'ailleurs, là, le week-end dernier, j'ai dit, le week-end dernier, elle s'est réveillée 6 fois. Alors, c'est rare. Hein. C'est très, 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 très rare. C'est, ça n'arrive pas tous les jours. Je dis à mon mari, là, c'est terminé, on va s'y mettre. Et pour moi, c'est un peu à lui de prendre le relais.
Oui, aussi.
Ouais, donc ça, ça ne l'enchante pas trop. Parce que je crois que lui aussi, par facilité,
il y a un petit sujet.
Aime bien dire non, mais là, l'allaitement, c'est ce qu'il faut la nuit. Hein.
Ah oui, c'est sûr que le papa joue un rôle important quand on veut éliminer les tétés, forcément. Alors, ce n'est pas, c'est pas forcément quelque chose qui est évident, parce que quand les papas ne sont pas disponibles, bien sûr qu'on peut faire autrement. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, ça permet aussi de comprendre aussi à votre enfant que bah, finalement, il peut ne se rendormir sans la tétée. Et avec papa... Bah, bien sûr, elle peut pas avoir la tétée. Donc, elle va se dire, bon, là, je vais finir par trouver un apaisement autrement parce que je sais que je ne peux pas l'avoir.
Par contre, la mienne, si la nuit, on ne lui donne pas, elle hurle.
Hurle ouais.
Elle hurle, mais elle hurle et...
Ils ont l'art de savoir s'en faire entendre.
Oui.
Là, mais c'est du mécontentement, en fait. C'est du... En fait, elle hurle, et elle hurle beaucoup. Elle va hurler encore plus fort avec papa, souvent. Malheureusement, les papas, quand ils prennent leur lait, c'est encore un cri plus fort. Mais c'est vrai que c'est du mécontentement parce que elle pense avoir besoin de ça pour se rendormir. Et c'est vrai qu'au démarrage, c'est dur parce qu'on se dit, mais elle a vraiment, elle est pas capable de le faire. Mais c'est vrai qu'il faut aussi s'auto-persuader qu'elle l'est et qu'elle peut s'endormir autrement. Et finalement, au bout de quelques jours, même si elle peut pleurer et les enfants, ils montrent leur caractère, hein, donc ils peuvent être très virulents dans les nuits. C'est vrai que si le bébé voit que vous êtes serein et que vous savez que sur plusieurs jours, voilà, on va essayer, on sera toujours là pour t'accompagner. On va pas la laisser pleurer. Non. On va rester avec elle. Mais elle va montrer son mécontentement quand même parce qu'elle veut le sein.
Ce que disait Jules tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas toujours si son enfant est prêt à prendre une nouvelle habitude ou à passer un cap. Qu'est-ce qui se passe dans toute cette première année comme étape de développement qui peuvent nous indiquer que c'est peut-être le moment où il devrait être prêt ou alors il n'y a aucune norme et la première année, c'est un joyeux bazar pour certains et une idylle pour d'autres. Comment expliquer des étapes pour qu'on se dise, bon, là, c'est normal, c'est pas normal, ou il y a des jalons?
Alors, c'est vrai que la première année, il y a beaucoup de choses qui se passent pour le bébé. Il y a une phase de développement qui est énorme, hein, la première année. Il faut se dire déjà qu'il y a une grosse étape les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois, c'est le 4e trimestre de grossesse. C'est vraiment, on l'appelle comme ça parce que c'est un moment où le bébé a vraiment besoin de retrouver les conditions qu'il avait dans le ventre de sa maman pour s'endormir. Il a vraiment besoin d'être porté, d'être au chaud, d'être avec sa maman ou son papa. Mais c'est vraiment ça qui va lui permettre de se sentir serein au niveau de l'endormissement. Donc surtout, les 3 premiers mois, on se pose pas vraiment de questions. C'est-à-dire que l'enfant, tant qu'il dort, eh bien... c'est le principal, et qu'il dorme sur maman la nuit ou qu'il dorme en journée que en portage, il n'y a aucun problème. Ça ne crée aucune habitude. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que les parents, en général, ont tendance à se dire « Comment ça se fait que mon enfant, je n'arrive pas à le poser ?» L'enfant a besoin de ça. Et physiologiquement parlant, les bébés, ils ont besoin de ces 3 mois pour comprendre qu'ils peuvent s'endormir autrement que en étant portés, en étant dans une chaleur constante, etc. Après, passé 4 mois, le 4e mois est un peu charnière, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là où il y a une régression du sommeil qui arrive déjà, qui peut apparaître pour certains parents, que c'est très déroutant parce qu'on est déjà très fatigué par les 3 premiers mois. Et le quatrième mois, ça allait un petit peu mieux au niveau du rythme, et puis tout d'un coup, on repart un petit peu en arrière. Les nuits sont compliquées, l'endormissement est compliqué, et donc à ce moment-là, on se demande ce qui se passe. Et donc là, c'est juste que le sommeil se modifie, le bébé commence à grandir, il prend conscience de son environnement et c'est là où, en fait, quand on pose son bébé endormi, ça ne marche plus trop. Ça commence à devenir compliqué de l'endormir au sein et de le poser, de l'endormir à bras et de le poser. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, voilà, mon bébé grandit. Il commence, c'est plus un nouveau-né, ça commence à être un bébé qui évolue et qui voit son environnement. Et là, on peut commencer à se dire que ça peut être intéressant de lui proposer un petit peu plus d'autonomie au niveau de sommeil. Et surtout, son sommeil est plus mature pour comprendre qu'il peut le faire. Donc en général, de pouvoir un petit peu poser son bébé plus facilement en autonomie, on le fait à partir de 4 mois. avant ça, on fait au mieux. On fait ce qu'on peut par rapport à son bébé, par rapport à ses besoins.
Quand tu veux dire en autonomie, ça veut dire, bon, là, il est 14 heures, j'ai l'impression que c'est un peu le rythme de sieste qu'il pourrait avoir. Donc, avant qu'il s'endorme dans nos bras, on essaie de le coucher, de le rassurer, d'instaurer ces petits rituels et ce rythme. C'est ça.
Oui, c'est vraiment de se dire j'arrive à poser mon bébé sans qu'il soit totalement endormi, pour que justement le bébé prenne conscience et qu'il ne se réveille pas, non pas parce qu'il n'est plus dans les bras ou il n'est plus au sein, mais parce qu'il a assez dormi.
Mmh. Et aussi peut-être ça dépend des bébés, non ?
Oui, ça dépend des bébés,
évidemment.
Bien sûr.
Parce que,
bien évidemment.
Moi, Sarah, j'aurais pas pu, vraiment pas.
Ouais.
Elle aurait, enfin, en fait, elle pleurait dès que je la lâchais, c'était pour elle de l'angoisse, quoi. Et la période vraiment de l'angoisse de la séparation vers 8, 9, 10 mois, oh, ça a été intense. Hein.
Oui.
Ah ouais. Ah ouais, ça a été.
Ce 8, 9 mois, c'est un cap aussi,
oui,
pour
le sommeil. Oui, c'est un gros cap. Ouais. C'est justement, dans la première année, il y a quand même des phases de régression qui sont assez importantes. Bien heureusement pour nous, tous les bébés ne passent pas par toutes les phases de régression, qu'il y en a quand même 5 sur 24 mois. Mais par contre, c'est vrai que la phase 7, en fait, on l'évoque entre 7 et 9 mois, parce que c'est très aléatoire en fonction des bébés. Mais cette phase d'angoisse de séparation, elle est très, très importante, parce que c'est là où l'enfant découvre qu'il ne fait pas qu'un avec sa maman. Alors, c'est compliqué. Et il voit ce détachement se faire. Et par contre, l'enfant ne sait pas que quand on quitte la pièce, on va revenir. Donc, c'est très compliqué à comprendre. Et surtout, au niveau du sommeil, ce qui est compliqué, c'est que le sommeil est une séparation. Donc,
oui.
À ce moment-là, dans cette phase-là, ils ont besoin d'une réassurance plus. Ils ont beaucoup besoin d'être avec nous. Dans ces moments-là, ce que je préconise beaucoup, c'est surtout de rassurer, de ne pas mentir quand on va quelque part, parce qu'on se dit « Oh là là, si je dis vraiment ce que je vais faire !» ce qu'on fait souvent en disant je ne vais pas dire ce que je vais faire sinon ça va être compliqué, mais justement vaut mieux toujours dire la vérité, parce que oui, ça peut être compliqué au démarrage quand on va partir faire des courses ou quelque chose, mais c'est toujours mieux de dire vraiment ce qu'on va faire et de revenir, et que l'enfant comprenne que vraiment oui, en effet, elle m'a dit qu'elle était partie mais elle est revenue.
Oui.
Et c'est vrai que c'est important de les soutenir dans cette période-là, parce que pour eux, c'est vraiment une séparation quand on quitte la pièce, quoi.
Mais alors, au moment où j'ai quitté, c'était la cata. Mais quand j'étais pas là, c'était nickel. Et puis elle jouait et tout, elle réclamait pas du tout mon mari. Et dès que je suis là, c'est « Maman !»
Oui. Ouais. Oui, après, t'es sa figure d'attachement principale. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui la perturbe, ou en tout cas qu'elle a envie d'exprimer quelque chose, c'est avec toi qu'elle va le faire. C'est comme quand ils reviennent de la crèche ou alors ils ont passé une journée chez la mamie. Ça s'est super bien passé. Ils ont passé une super journée.
Ils ont mangé des légumes.
Ils ont été parfaits. Et ils rentrent à la maison. Et là, c'est la crise avec maman ou avec papa. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là, c'est vraiment, ils expriment tout ce qu'ils ont vécu dans leur journée, ils l'expriment avec la figure d'attachement.
Ça me fait penser justement à ce qu'on vit avec les plus grands quand ils rentrent de l'école, qui se défoulent, que c'est la catastrophe. Alors qu'apparemment, à l'école, ils sont super sages.
Hein. Je dis, en effet, les bébés ne vont pas tous mettre le même temps à comprendre ce qu'on leur dit ou ce qu'on leur demande.
Bien sûr, oui.
Pourquoi certains font leur nuit au bout de 3 mois, ce qui semble normal, mais on est d'accord que le normal est entre des grands guillemets. Et pourquoi certains, au bout d'un an, ne font pas des nuits complètes? Est-ce qu'on doit se remettre en question et se dire c'est de notre faute, on est peut-être stressé? Est-ce qu'on se remet en question en tant que parent? Est-ce que c'est tout, c'est comme ça? Est-ce qu'il faut faire appel à quelqu'un comme toi? À quel moment on s'inquiète de ce qui est acceptable ou pas?
Alors déjà, c'est vrai que de faire ces nuits, c'est un grand sujet, parce que faire une nuit complète, déjà, pour dans le jargon du sommeil, c'est d'enchaîner 5-6 heures de sommeil. Donc c'est pas 8 heures, 7 heures du matin. Donc quand on a notre bébé qui fait du 5-6 heures d'affilée à 3 mois, c'est super. Ça veut dire que son bébé fait ses nuits. Donc il faut vraiment relativiser quand on entend « mais non, mais moi, mon enfant, il fait pas du tout ses nuits ». Si, quand on enchaîne 5-6 heures pour un bébé de 3 mois, c'est très bien.
Ouais.
Après, il évolue avec le temps. Et en effet, il y a des bébés qui dorment moins bien que d'autres. Et ça, souvent, on le constate, parce qu'on a les témoignages autour de nous. « Ah, mon bébé, il dort très bien. » Et nous, nous, on se rend compte qu'on a encore 4 réveils dans la nuit et on ne sait pas pourquoi. C'est vrai que le sommeil est très différent d'un enfant à l'autre et il faut pas se remettre en question parce que il y a tellement de choses qui peuvent jouer sur le sommeil du bébé que surtout entre 0 et 12 mois, il y a les phases d'évolution, d'acquisition, il y a les dents, donc il y a des enfants qui ont une capacité à ne pas être perturbé au sommeil avec leurs dents, alors que d'autres, dès qu'il y aura une dent qui va sortir, ça va être perturbé. Donc il y a plein de petites choses qui peuvent faire perturber le sommeil du bébé. Moi, ce que je dis toujours, c'est que à partir du moment où ça nous convient, c'est-à-dire que on se dit ok, bon, il se réveille une fois ou une deux fois dans la nuit, mais je sais pourquoi il se passe. Voilà, il y a une maladie, il y a une acquisition en cours. Ça ne me pose pas de problème et mon bébé a besoin de moi à ce moment-là. C'est à partir du moment où on se dit bon, je pense que j'ai besoin de quelqu'un pour me rassurer. Parce que au final aussi, moi, je sers beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui font des choses très très bien et qui viennent vers moi et qui ont besoin d'être rassurés. Et quand ils sont un parent rassuré, en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant l'est d'autant plus. Et donc, ça engendre souvent des choses très positives sur le sommeil, qui fait que derrière, ça se passe mieux et on sait aussi pourquoi il se réveille l'enfant.
Quand tu parlais des acquisitions, c'est-à-dire que si je comprends bien, quand il est en train d'apprendre à marcher ou à se retourner, par exemple, ça l'occupe tellement la journée, ça occupe tellement son cerveau que le cerveau est moins dispo pour s'endormir facilement. C'est quelque chose comme ça.
Oui, les phases d'acquisition, donc en plus, il y en a beaucoup la première année, que ce soit le retournement, ça soit la position assise ou quand il commence à se mettre un peu debout.
Donc c'est de la motricité.
Tout ce qui est motricité. Ça enclenche finalement le fait que l'enfant a souvent ça enclenche des réveils nocturnes en général. L'endormissement, il peut être un petit peu perturbé, mais c'est souvent lié dans la nuit qu'on a des problématiques à ce niveau-là. Et donc, l'enfant ne sait pas gérer les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il ne peut pas gérer l'acquisition en cours et son sommeil, qui n'est pas encore totalement mature, et qui fait que ça le perturbe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est mal, hein, qu'il y a quelque chose qui le dérange, mais en fait, il a fait tellement de choses dans sa journée que finalement, ça perturbe son sommeil de nuit. Et là, dans ces moments-là, évidemment, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, entre guillemets, c'est d'attendre que cette acquisition se fasse. Et en général, je préconise aux parents d'essayer justement de rassurer son enfant en disant c'est super, tu apprends à marcher, tu es en train d'acquérir la marche, c'est sûr que ça te prend beaucoup d'énergie, mais tu vas voir, tu vas y arriver et on est là pour toi la nuit. Et c'est vrai que ça permet à l'enfant de déculpabiliser un petit peu, de dire voilà, j'apprends beaucoup de choses, c'est aussi pour ça que je me réveille et c'est ces réveils nocturnes s'estompent au fur et à mesure.
Mais tu vois, ce que tu dis, ça fait écho en moi parce que ma fille, elle est en train d'apprendre à marcher. Et tu vois, je t'ai dit ce week-end, elle nous a fait 6 réveils, on n'a pas compris pourquoi, mais autant c'est ça.
Ah, mais c'est ça, ouais. Bah oui, c'est sûr.
Dans cette première année, il peut aussi y avoir des grands changements. Souvent, c'est quand même l'année où on déménage quand il y a un nouvel enfant ou le premier. Et puis, à l'entrée en crèche ou chez une assistante maternelle, ça arrive pas tout le temps, mais quand même souvent au bout de 3 mois ou 6 mois ou 1 an. Est-ce qu'on doit craindre que le sommeil soit perturbé par cette entrée en crèche ou chez une assistante maternelle?
Alors, on appréhende toujours beaucoup ce démarrage en crèche ou chez la nounou, ce qui est tout à fait normal. Surtout nous, en tant que maman, on a toujours la petite boule au ventre quand on va déposer notre enfant la première fois chez la nounou ou la crèche. Il ne faut pas appréhender en amont parce que finalement, il y a des enfants, ça se passe super bien. Là encore, cette semaine, j'ai eu une maman qui déménageait, qui avait appréhendé ce déménagement en disant « Oh là là, ça va reperturber son sommeil, etc. » Et non. Ça n'a pas perturbé son sommeil parce que elle disait justement, je pense que ma fille se sent bien dans le nouvel appartement parce qu'on se sent bien aussi. Et c'est vrai que alors ça peut perturber bien sûr les changements émotionnels. Donc ça peut être les déménagements, en effet la nounou quand on change de nounou, quand on arrive dans un nouvel environnement, ça perturbe un petit peu le sommeil, mais en général ça dure pas très longtemps. C'est-à-dire que faut le temps il y a une petite adaptation qui se fait, mais c'est surtout il faut essayer, je dis bien essayer parce que c'est pas facile, mais plus on va être zen, nous, plus l'enfant le sera. Alors je sais que c'est pas évident,
donc
on fait ce qu'on peut, mais on le sent en fait, dès qu'on voit que les parents vivent ce changement de manière positive et que c'est vécu de manière positive par les parents, on voit vraiment une différence avec l'enfant. Donc ça, c'est important d'essayer au maximum de ne pas trop appréhender en amont, ne sachant pas ce qui va se passer. Et puis finalement, parfois, ça se passe super bien. Et ensuite, par contre, après, ce qui va être important, c'est bien prévenir son enfant. Si on a un petit moment, justement, on appréhende ce moment, on peut en parler à son bébé. On peut lui dire, voilà, j'appréhende un petit peu de te laisser, mais je suis sûre que ça va bien se passer, il n'y a aucun problème.
Je voulais parler des rituels, parce qu'on nous dit beaucoup qu'il faut des rituels de sommeil. Jill, tu m'as un peu raconté les jolis rituels que tu avais en famille, notamment pendant votre voyage en van. Est-ce que tu veux bien nous raconter ?
Oui. Alors, pour nos deux premiers, on n'a jamais trop eu de vrais rituels, j'ai envie de dire. Et puis, le petit troisième, Raphaël, pareil, en fait, il s'endormait. Ben, lui, par contre, il s'est endormi au sein pendant un an. En fait, c'était ça, son rituel de sommeil. Peut-être que les deux premiers, c'était ça aussi, en fait. C'était sûrement ça aussi, le rituel.
On oublie. Hein.
Et donc, Raphaël, au bout d'un an, il s'endormait toujours au sein. Et puis, pendant le confinement, mon mari, il était beaucoup plus présent qu'habituellement. Et il a eu envie, en fait, de le coucher tous les soirs. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Ils ont vraiment établi des beaux liens tous les deux pendant le confinement. Et donc, je l'allaitais encore. Et puis, naturellement, il est allé dire bonne nuit au chien, regarder la lune, les étoiles, lire une histoire ensemble. Et en gros, c'est lui qui a vraiment pris le relais et c'est lui qui a instauré ce rituel. Et en fait, il n'a plus du tout été allaité le soir, du coup, Raphaël, grâce à Clément. Et c'était pour Raphaël le moment où on disait, voilà, ça y est, tu vas te coucher. Et c'était suffisant pour lui, en fait. Ça lui allait très bien.
C'est quoi un bon rituel de sommeil ? Est-ce qu'il y a un âge dans la première année où on peut songer à le mettre en place ?
Alors moi, je dis toujours que le rituel, on peut le mettre en place dès la naissance, en fait. Un rituel, on le fait, et inconsciemment, il y a beaucoup de parents, ils me disent qu'ils n'en font pas, mais si, ils en font un, ils ne se rendent pas compte, mais ils en font un. Les rituels, c'est quelque chose qu'on met en place petit à petit, c'est des étapes qu'on met en place avant d'aller faire dodo avec son bébé. Donc au début, quand ils sont tout petits, c'est des petits moments, c'est des changements de couche, ça va être, je fais un petit câlin, je le pose ou je le garde avec moi, je lui fais une petite chanson, ça c'est un rituel. Et donc, moi, je dis toujours qu'on peut le faire vraiment très rapidement. Après, ça devient quelque chose d'assez essentiel à partir de 3-4 mois. C'est quand justement le bébé commence à évoluer, qu'on veut essayer d'un petit peu plus le poser. En tout cas, on essaye davantage. On a envie qu'il soit dans son lit, qu'il soit bien. Eh bien, là, il commence à prendre des repères. Et le fait de savoir à quel moment il va être couché, l'enfant adore. En fait, ils n'ont tellement pas de points de repère temporels autres que ça, que finalement, eux, ils savent que quand on fait la couche, quand ensuite, après, on va chanter la petite chanson, on éteint la lumière. Et là, je sais qu'après ça, je vais aller dans mon lit et je vais faire dodo. Et ça les rassure. Et en général, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour améliorer le sommeil du bébé, justement. C'est vraiment, ça apaise le bébé sait ce qui va se passer, ça les rassure et les rituels, on peut les faire encore très très longtemps. Moi, je le fais encore avec mon grand garçon de 6 ans. Et finalement, il adore, on sent qu'il aime avoir ce rituel le soir. Mmh. Finalement, le bon rituel pour moi, c'est celui qui convient à la famille. C'est-à-dire, il faut que ça convienne à papa, à maman et à l'enfant. Parce que ce qui est important, c'est qu'il soit identique chaque soir, idéalement. Alors, il va évoluer dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire le même rituel à 4 mois qu'à 12 mois ou à 2 ans, et ainsi de suite. Mais il évolue, mais par contre, après, on le maintient et on met toujours un petit peu les mêmes choses dans le rituel. C'est important parce que si on change trop le rituel, l'enfant ne sait plus justement ce qui se passe après. Donc, ce qui est important, c'est de mettre en place un rituel qui est identique, qui est dans le même ordre, idéalement, et qu'on va faire avec plaisir. Et si, je dis toujours, si y a quelque chose qui ne convient plus, on fait une chanson et puis finalement, on la fait une fois sur deux, bon, on l'enlève et puis on fait autre chose. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui est rassurant pour l'enfant, qui permet à l'enfant de comprendre que c'est bientôt l'heure du coucher. Et par contre, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Le rituel, en général, c'est 10-15 minutes maximum. Et après, on fait... Alors, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre dedans, mais il y a des exemples. Mais un bon rituel, c'est vraiment un moment de détente avec son enfant, idéalement dans le lieu où il fait dodo. Et on passe un bon moment avec son enfant.
C'est un peu aussi remplir finalement le seau avant qu'il aille, le seau affectif avant qu'il aille s'endormir, passer ces 20 minutes-là qu'on n'a pas eu le temps peut-être en tête à tête.
Alors ça, attention.
Non,
ah, C'est pas assez. Ça, alors, on aimerait, alors ce serait bien, mais la routine du soir ne suffit pas.
Non, je dis pas ça, mais je dis, voilà, est-ce que c'est pas ce moment-là qui, voilà, où on va vraiment être en tête-à-tête, où il n'y a pas de frère et sœur autour?
Si, si, bien
que
sûr.
Que ce soit son moment à lui aussi.
Ah, bien sûr. Bah, c'est pour ça que ça l'apaise. Hein. C'est certain que. Après, il y a des rituels qu'on peut faire à plusieurs, hein. Quand on a plusieurs enfants, on peut les faire ensemble. Mais le rituel du soir, quand on veut remplir le petit réservoir, le grand réservoir de l'enfant, souvent il est pas la routine n'est pas suffisante parce que il a besoin d'un temps supplémentaire en plus. Alors je dis pas qu'il faut trop de temps, 10-15 minutes, c'est bien en plus.
Ouais.
La routine du soir suffit rarement, en tout cas pour l'enfant. Le soir, quand on rentre à 18h30 et qu'on les couche à 20h ou à 19h30, on se dit, oh là là, mais comment on va faire pour faire tout ça? Je sais que c'est compliqué dans ces tranches horaires-là, mais ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que, avant de commencer mon petit rituel du soir pour aller faire dodo, est-ce que j'ai passé un temps avec mon enfant, 10 minutes? Alors, ça peut être que 10 minutes. Si c'est 10 minutes, c'est déjà bien. Mais un temps de qualité. Ouais. C'est-à-dire, si on a d'autres enfants, c'est, bien sûr, les autres enfants sont autour, il n'y a pas de problème, mais avoir ce petit temps de qualité, on voit tellement la différence quand on le fait. C'est impressionnant sur l'endormissement et les réveils nocturnes que ça vaut vraiment le coup de se dire, allez, je passe. Et puis nous, on apprécie, hein, quand on le fait, on est content. C'est juste qu'on prend pas le temps ou alors c'est un peu le rush, quoi.
Il y a tellement de choses à faire le soir, ouais, que
c'est le rush, bien sûr.
Avec ton expérience de maman de 4 enfants, quel est le meilleur conseil que tu garderais et que tu transmettrais aux jeunes parents qui t'écoutent?
Mon meilleur conseil serait de s'écouter soi. Parce qu'on peut recevoir plein de conseils, des bons et des mauvais. Parfois, du coup, on peut arriver à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire parce qu'on a écouté un tel ou un tel. Et donc, bien s'écouter soi, bien écouter son bébé, apprendre aussi à l'observer et à le connaître. Il y a des moments, je pense, plus ou moins difficiles. Donc, s'écouter soi, écouter son enfant, apprendre à l'observer et pas trop écouter l'entourage quand on a l'impression qu'on n'est pas trop en accord avec ce qu'ils disent. Donc, voilà.
Et le pire conseil que tu aies reçu?
Du coup, moi, c'était de laisser pleurer mon bébé. Et en fait, ça m'a appris à m'écouter. Parce que du coup, en fait, je n'étais pas du tout en accord avec ça. Et puis, finalement, c'est peut-être aussi bien, parce que ça m'a appris aussi, moi, ce que je voulais faire, ce que je ne voulais pas faire. Et je pense qu'on est quand même obligé, à un moment donné, de passer par certaines confrontations dans la maternité.
Marie, un conseil pour les jeunes parents?
Alors, moi, ce qui je trouve qui est très important, comme disait Jill, moi, je pense que la confiance en soi est super importante. Je dis toujours que l'instinct des parents est le meilleur. Et peu importe ce qu'on vous dira autour de vous, si vous sentez que votre bébé a besoin de quelque chose de particulier, ou en tout cas qu'il a besoin de vous, particulièrement pendant 12 mois, et qu'il va encore se réveiller la nuit notamment, eh bien, on y va, et on se pose pas la question, parce que l'instinct est tellement le meilleur, l'instinct paternel est tellement le meilleur que faut pas se poser plus de questions que ça. Par contre, si pas on se sent pas en tout cas assez les épaules pour gérer ça, il faut pas attendre d'être à bout. Parce que souvent c'est ce qu'on fait, on attend, on se dit ça va passer et j'ai du mal à aller demander de l'aide, mais heureusement aujourd'hui il y a des personnes qui sont là pour aider justement, notamment c'est pour ça que je fais ce travail aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte qu'on pouvait aider des parents qui justement ont perdu cette confiance qu'ils avaient en eux, ils ne savent plus comment faire et puis ils n'ont pas envie de laisser pleurer leur bébé et en même temps ils n'ont plus les clés pour ça et on est là pour ça, donc surtout il faut pas attendre d'être au bout du rouleau pour venir voir des gens comme nous pour qu'on puisse trouver des solutions, parce qu'il y a des solutions.
Merci à toutes les deux.
Merci.
J'espère que cette discussion vous a inspiré et donné quelques clés pour bien vivre vos premiers pas de parents et aborder sereinement les nuits avec votre bébé.
La Parenthèse, c'est le podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents, pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt.